Yeah!
Help!
Help!
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h.
Top Top!
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Focus aujourd'hui sur une universitaire. Alors, je ne sais pas si elle est connue du grand public. Je serais tentée de dire oui, puisque vous l'entendez, vous avez pu l'entendre sur RCFM. Elle est chroniqueuse également sur France 3 Corse Via ST. Elle a ses thèmes de prédilection, la Méditerranée, l'Europe, la création en Corse, mais aussi ailleurs. J'ai le plaisir de recevoir l'universitaire Sérène Atalamoni. Bonsoir Sérène.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
Mais merci à vous, Dave.
Alors, nous ne sommes pas seul, à mes côtés, deux brillants chroniqueurs, La Relève et la Marc-Andrea Castellani, Cécilia Cantelli. Bonsoir.
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 Comment allez-vous ?
Ah ben, très très bien.
Mais évidemment très bien. Toujours.
Marc-Andrea n'est pas trop turbulent, Cécilia ?
Non, il est très sage.
Bon. J'ai décidé d'être sage.
On vous retrouve tout de suite et bienvenue. Alors merci Sérène d'avoir accepté cette invitation, puisque si on peut vous entendre et vous voir à la télé ou à la radio, je n'ai pas souvenir de Sérène Atalamoni invitée dans une émission.
Non, c'est la première avec vous, Dave.
Donc voilà, première sur, sans doute de nombreuses interviews. Alors on va s'intéresser à votre parcours, votre œuvre. Hein, on va vous intéresser.
Ah, c'est ma grande œuvre.
Votre grande œuvre. On va s'intéresser à votre travail universitaire. Il ne faut pas commencer à rigoler, Sérène. Sinon on va rigoler pendant une heure. À vos travaux universitaires, puisque vous êtes doctorante.
Oui.
À l'université de Corse.
Tout à fait.
Alors, sur quoi porte votre travail de thèse, ma chère Sérène ?
Alors, j'étudie en fait l'imaginaire politique et en fait en quoi notre perception du monde, nos valeurs influencent nos actions. Et en l'occurrence, comment la perception du monde et les valeurs des hommes politiques influencent les décisions publiques et comme thème d'étude principale, l'Assemblée de Corse.
Donc, c'est un travail qui nécessite beaucoup de recherche.
Tout à fait, oui.
Vous replongez dans de nombreuses archives.
Oui, beaucoup.
On les trouve où, ces archives, d'ailleurs, pour...
Alors, ça dépend de la période. Moi, j'étudie la période, principalement la période 2010-2015. Donc là, les comptes rendus in extenso sont en ligne sur le site de l'Assemblée. Sinon, après, il y a des archives à l'Assemblée de Corse. Mais une grande partie est quand même en ligne sur le site de l'Assemblée.
Alors, une thèse que normalement, vous devrez présenter à quelle époque ? Cette année, l'année prochaine ?
Cette année, oui.
Ensuite, donc, docteur Sérène Atalamoni.
Espérons, on verra.
Et vous pourrez, bon, vous enseignez déjà à l'université. Quand on est doctorant, oui. On peut donner des cours. Vous enseignez quelle matière ?
La sociologie et la communication politique.
Ça vous a passionné depuis toujours, ça, la sociologie
Toujours, oui. En fait, depuis le lycée, en fait, hein, où j'ai fait ES, je passais un bac ES, et ensuite, ça m'a toujours. Les sciences humaines, de manière générale, m'ont toujours passionné.
Est-ce qu'il y a, si on parle de sociologie, rapidement et dans les grandes lignes, est-ce que pour vous, à vos yeux, il y a un sociologue qui se démarque ? Je ne sais pas, Durkheim, Bourdieu, est-ce qu'il y en a un voilà, qui a une place différente à vos yeux ?
Alors moi je trouve qu'il y a en fait beaucoup de sociologues qui apportent, je ne suis pas pour entrer dans une école en particulier, je pense qu'il ne faut pas opposer les différentes écoles mais que chacun peut apporter quelque chose, mais c'est vrai que bon, je suis très intéressée par Bourdieu notamment, ce courant-là, mais encore une fois sans opposer aux autres courants que je pense plutôt, enfin je préfère voir la complémentarité que l'opposition.
Alors moi je trouve que, toujours qu'il est quand même très drôle, alors je ne sais pas si c'est drôle, chez Pierre Bourdieu, on le connaît surtout, alors si je me souviens de mes cours de fac, hein, pour ses histoires d'habitus culturels. C'est-à-dire que il dit, Pierre Bourdieu, que c'est très compliqué de s'émanciper de son milieu. Que lorsqu'on vient d'une famille populaire, et ben voilà, de devenir cadre, de grimper entre guillemets dans l'échelle sociale, c'est très compliqué, alors que lui, c'est totalement l'inverse. Il vient d'un milieu très populaire, il est devenu le professeur de sociologie, l'universitaire le plus réputé, j'ai envie de dire.
Oui, très, très, un universitaire très important, mais en fait c'est sans doute aussi de par ses origines qu'il s'est beaucoup intéressé aux inégalités, et c'est vrai que son œuvre porte beaucoup sur ça, et effectivement comment il y a une part de déterminisme aussi dans nos origines sociales et culturelles, mais effectivement je pense que son parcours est influencé, son parcours universitaire et son œuvre considérable influencée par ses origines aussi.
Et il était très en avance, hein. C'était déjà féministe, hein. Il parlait des inégalités entre les femmes et les hommes, notamment au travail.
Oui, tout à fait. Et puis, très en avance, y compris sur les questions de la pauvreté, etc. Encore aujourd'hui, en fait, quand on analyse les facteurs de la pauvreté, je crois qu'il y a un rapport de l'OCDE de assez récent qui montre que, en fait, la culture et les relations sont vraiment source d'inégalités, en fait, en fonction des classes sociales. Et ça, c'est exactement ce que disait déjà Bourdieu à l'époque. Donc, en fait, c'est des facteurs d'explication qui sont encore très présents aujourd'hui.
Alors, on va s'intéresser à votre parcours, ma chère Sérène Talamogne, une enfance bastiaise. Et d'ailleurs, je me tourne vers nos chroniqueurs, hein, Cécilia et Marc-André. Vous intervenez quand vous le souhaitez. D'ailleurs, vous êtes de Bastiais. Oui. Est-ce que vous connaissez Sérène Talamogne?
Sérène, avant tout, quoi. Salut, hein, d'Astronde.
On
a pris l'occasion de...
Oui, tout à fait.
Non, et puis là, on écoutait ce qu'on disait sur Bourdieu. C'est vrai que c'était quelqu'un de... Ben, justement, lui, cette notion de classe sociale, il avait beaucoup tapé sur la manière, déjà à l'époque, hein, où ont été utilisés les médias de masse pour éviter, on dira, d'élever les gens et plutôt profiter du bas niveau pour quelque part faire son bis dessus. Et il avait été très avant-gardiste, je pense, sur une certaine utilisation des médias tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui. Voilà, je l'avais trouvé très très brillant pour ça. C'était intéressant d'en parler.
Merci. Vous êtes très pertinent, mon cher Marc-André à Castellane. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Cécilia, vous la connaissez, Sérène Talamogne?
Bien sûr, bien sûr. Mais déjà, je sais qu'elle était sur RCFM, puisque quand j'ai commencé il y a quelques mois, je me souviens avoir passé quelques-unes de ses chroniques qui étaient très intéressantes. Filet à Pontoucourt, s'il a, il me semble.
Hey, donc, bien, Cécilia.
Qu'est-ce que vous croyez, Damien? Hey.
Alors, Sérène, vous avez commencé à RCFM avec une chronique sur l'Europe.
Oui.
Ensuite, ça a été la Méditerranée. Mmh. Et puis, comme le disait Cécilia, filet à Pontoucourt, la création, l'inspiration. Ce sont des thèmes assez récurrents chez vous.
Oui, c'est
ça
vrai.
Ça vous inspire à vous aussi, finalement.
Oui, ça m'inspire à moi aussi, effectivement. Y compris les thèmes méditerranéens et européens participent aussi de la création, à mon avis, pour la Corse. Et c'est vrai que c'est des thèmes assez récurrents chez moi. Mais en fait, j'ai commencé en stage avec Jean-Paul Luchan pour décalage horaire, en fait. Ouais, j'avais effectivement oublié de vous en parler. Mais
dans
c'est
votre
vrai
CV,
que,
ça ne figurait pas.
En fait, au départ, je devais faire de l'administratif et il m'avait dit, j'étais arrivée à 10h, donc l'émission commençait à midi, et il m'avait dit, bon, allez, maintenant tu viens. Donc, voilà, pas le temps de stresser. Donc, ma première émission s'est déroulée comme ça, grâce à Jean-Paul qui tout de suite m'a jeté dans le bain.
Les pieds à l'étrier.
Voilà, exactement.
Jean-Paul Oudjani, que l'on salue, hein, si l'on s'écoute, bien sûr. Alors, une enfance bastiaise, ma chère Sérène.
Oui.
Vous êtes très jeune, vous avez 30 ans.
Très, très jeune.
Alors, racontez-nous un petit peu cette enfance et cette ambiance familiale.
Alors en fait, une enfance bastiaise et fumourbache, hein, donc ma mère est originaire du Fumour et mon père de Pietra du Herde, mais c'est vrai que j'ai très peu connu Pietra dans mon enfance, un peu plus maintenant, mais j'étais beaucoup dans le Fumour toutes les vacances et souvent le week-end avec mes grands-parents, donc vraiment entre Bastia et le Fumour.
Alors, est-ce que vous étiez une bonne élève?
Oui.
Plutôt?
Plutôt, oui.
Vous aviez déjà en tête, lorsque vous étiez enfant, puis plus tard adolescente, une idée de métier, de job à exercer. Alors, un père avocat, mm-hmm. une mère dans la psychologie, psychologue.
Oui. Non, je n'avais pas d'idée, non, vraiment pas.
Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, je vais suivre le chemin de l'un ou de l'autre?
Non. Non, franchement, j'ai commencé à aimer la sociologie au lycée. Ensuite, je suis allée en droit. Le droit m'intéressait aussi, m'a beaucoup intéressée. Je suis allée en droit à Corté, j'ai fait une licence de droit. Et comme les sciences humaines m'intéressaient, j'ai parallèlement commencé Sciences Po à ce moment-là, en fait. Mais c'est vrai que, non, enfant, pas du tout d'idée de ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, même au lycée, à l'université, c'est le chemin qui fait qu'après...
Vous n'aviez pas une idée, une ambition bien précise,
non,
en vous disant, je voudrais exercer ce job-là et,
Non.
Donc c'est venu, une vocation qui est née au fil des ans. Et
des rencontres.
Des rencontres. Alors, est-ce que vous aviez des passions, enfant? Est-ce que voilà, est-ce que vous étiez une grande sportive?
Pas vraiment. J'essayais beaucoup de sport. Non. Non, j'aimais beaucoup dessiner. Je dessinais, ouais. Quand j'étais enfant, je dessinais pas mal.
Et vous dessinez encore aujourd'hui?
Oui, un peu, oui, à mes heures perdues. Je peins un petit peu.
Alors, vous dites que vous ne faites pas de sport, mais tout le monde connaît votre réputation de danseuse.
Oui, internationale.
Internationale. Le flamenco.
Oui, mais c'est une passion qui m'est venue sur le tas, hein, en fait. Quand j'ai commencé mes études, quand je suis partie à Aix pour faire mon master, où j'ai découvert le flamenco là-bas, et en fait, je ne me suis jamais arrêtée.
Alors, on a pu entendre Marc-André. Mmh. Si vous connaissez un air de flamenco, vraiment très volontiers.
Hein. Ah non, oui.
J'induisais juste un petit fond musical.
C'était une ambiance. C'était un peu une ambiance. Woody Allen, là. Hein. Voilà. C'était comme une page qui se tourne dans un film de Woody Allen. C'était très beau, Marc-André.
Non, mais c'est très gentil. Non, je disais pas de sport. C'est quand même une danse qui est très, très physique, quoi.
Oui, et très sportive, carrément.
Mmh. Oui, mais enfin, on parlait de mon enfance. Alors, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser au sport. Et heureusement que j'ai trouvé le flamenco, je dois dire, parce que sinon.
Vous dansez chaque semaine ou
oui.
plusieurs fois par semaine?
Chaque semaine, mais bon, je dois avouer que parfois, je ne peux pas y aller quand je ne suis pas sur Bastia. Donc, si on demande à l'association, elle dirait que je suis un peu absente.
Vous n'êtes pas une élève assidue.
Pas toujours très assidue, voilà.
Alors, je vous propose d'écouter un morceau, une chanson que vous avez pu choisir, Paolo Conte. Une chanson italienne, pourquoi?
Alors, Paolo Conte, en fait, j'ai fait un an d'Erasmus en Italie, en troisième année de fac. Et quand je suis arrivée, une des premières chansons que j'ai entendues là-bas, c'était Paolo Conte. Donc voilà.
Donc voilà, petite réminiscence, souvenir, Madeleine de
nostalgie.
Proust, via comme Paolo Conte. Et reste avec nous, c'est Renata Lamogne, notre invitée dans Toc Toc. À mes côtés, Marc-André Castellani, Cecilia Cantelli. Et on se retrouve dans un instant.
Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips, dati do di do, chibum, chibobo, dati do di do, chibum, chibobo, dati do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Io uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-do-di-doo, chibum, chibum, bum. Da-di-do-di-doo, chibum, chibum, bum. Da-di-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, chibum, chibum, bum. Dati do di do, chibum, chibum, bum. Dati do di do.
Viacom, c'était Paolo Conte et c'est le choix de Serena Talamogne. Je vous propose tout de suite de retrouver Cecilia Cantelli. Alors ma chère Cecilia, de quoi allons-nous parler avec vous ce soir?
Alors on va parler de tags, qui je pense est un sujet qui va impressionner. Non, peut-être impressionner, peut-être que ma chronique va l'impressionner, mais intéresser surtout Serena Talamogne. Vous le disiez, vous aimiez beaucoup le dessin, je suppose que c'est toujours le cas, et la politique et aussi la communication. Et Alors le tag, qu'est-ce que c'est? On dit tag, graphe, graffiti, vous lui donnez le nom que vous voulez. C'est des inscriptions qui, en règle générale, ne laissent pas indifférents et qui sont évidemment une manière de communiquer. Et donc je suis sûre que ça vous parle, chère Sérène. Alors pour commencer, vous tous, une petite question. Est-ce que vous sauriez me dire, selon les scientifiques, le premier graphe tag de l'histoire de l'homme? Est-ce que vous auriez une petite idée?
Lascaux.
Ouais, voilà, un truc comme
alors,
ça. Dans les...
On n'est pas loin. Alors, ce qui différencie pour les scientifiques les inscriptions retrouvées dans les grottes de la préhistoire et un tag, c'est le caractère clandestin. Donc, pour eux, ça, c'est pas clandestin, donc c'est de l'art. Ce n'est pas un tag. Alors, c'est très subjectif, hein, on va dire ça comme ça. Mais selon un article du JDD qui est paru en 2014, il s'agirait d'un graphe réalisé sur un gros coquillage d'eau douce qui aurait été fait il y a plus de 5000 ans par un Homo erectus, pardon. Et les scientifiques sont formels, ce zigzag dessiné n'est pas le fruit du hasard. Il a forcément été fait sciemment pour exprimer quelque chose. Alors, on ne sait pas. Peut-être que notre ancêtre a voulu dédicacer ce coquillage à la femme qu'il voulait pécho. Peut-être que c'était pour lui le moyen de protester contre l'envahissement de ces coquillages dans les rivières. Mais ce qui est certain, c'est qu'en effet, le graphe est, depuis sa création, un moyen de s'exprimer. Un autre exemple qui, je pense, vous parlera à tous. On l'a tous fait et tous vu. À mon avis, au collège, du style sur les tables 6e B en force.
Carrément.
Voilà, le nom de notre groupe préféré ou encore les initiales du plus beau bec du lycée à qui on n'a jamais adressé la parole avec écrit AESD. Est-ce que vous savez ce que c'est AESD? Non, il n'y a que moi qui ai une adolescence gênante. Amour éternel sans divorce. Ouais. Voilà. Donc on a tous eu des périodes sombres avec des messages profonds, n'est-ce pas? Donc voilà, le graphe, un moyen de passer des messages. Et ce n'a pas échappé, évidemment, aux artistes qui ont compris l'impact de ce moyen de communication et ce que ça pouvait faire sur le public. On trouve des traces de tags artistiques en remontant jusqu'à la Grèce antique, dans les ruines de Pompéi également. Et parmi les graffeurs insoupçonnés, est-ce que vous savez qu'on trouve Victor Hugo?
Ah,
oui. Figurez-vous que Victor Hugo avait l'âme rebelle. Il s'est dit, je vais taguer des monuments historiques. Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Il a tagué notamment les murs du château de Chambord et il a revendiqué. Il était carrément accro au graffiti et à chaque fois qu'il taguait un monument, eh bien, il prévenait la presse pour que ça sorte dans les journaux et pour dire, ben oui, je m'appelle Victor Hugo, et je suis un bad boy. Et je ne dirai pas la suite, mais je pense que vous l'avez compris. Ce mouvement a perduré. Le graffiti prend avec des années de plus en plus de place dans la culture populaire et bien évidemment la culture urbaine, notamment l'exemple le plus frappant, les States, la ville de New York, symbole du tag, qui a permis à toute une communauté de s'exprimer, de voir des artistes émerger et forcément eh bien, ça a suivi dans le reste du monde. Et d'ailleurs, je vous modifie de me citer une ville où il n'y a aucun graffiti, je pense que ça n'existe pas. Et en effet, les artistes se servent beaucoup de ce mouvement également pour dénoncer des choses comme Banksy, que vous connaissez certainement, cet artiste anglais spécialisé dans le tag et qui l'utilise pour faire passer des messages qui mêlent souvent politique, humour et poésie. Et le message est généralement libertaire, antimilitariste, anticapitaliste ou encore anti-système. Je pense que vous vous souvenez tous de sa performance en 2018 lors d'une vente aux enchères. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas,
le tableau piégé.
Exactement. Il a mis aux enchères une de ses œuvres et au moment où le commissaire Preiser a confirmé la vente, l'œuvre s'est autodétruite devant le public était médusé. L'image a fait le tour du monde. Alors évidemment, gros coup de pub, puisque tout le monde en a parlé. Mais lui, il voulait dénoncer eh bien ce système capitaliste et le fait que l'art, eh bien, c'est pas fait pour être commercialisé, en tout cas pas le sien. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'il a ouvert une boutique à Londres qui s'appelle Gross Domestic Product, qui veut dire en gros produit domestique brut, dans laquelle il montre aux clients ses tags. Mais attention, vous ne pouvez pas les acheter directement et d'ailleurs, vous ne pouvez pas entrer dans cette boutique. Il faut aller sur un site internet où il y a une liste d'attente en ligne, choisir une œuvre et uniquement une œuvre. Alors, il faut vraiment être patient, je vous le dis. Puis, remplir un formulaire qui dit les raisons qui vous poussent à vouloir acheter cette pièce. Et c'est pas genre juste, bah, ça me plaît, je verrai bien ça dans ma chambre. Non, grosso modo.
Quelque chose détaillé, voilà.
Vous repassez le bac philo, hein. Donc, accrochez-vous. Ensuite, Monsieur Banksy étudie votre demande et il décide eh bien, si vous êtes digne de payer ou pas son œuvre. Alors, son but, c'est de passer un message. Certains disent qu'il en a marre aussi qu'on récupère ses œuvres pour en faire faire des cartes postales ou autres, en s'en mettant plein les poches, sans que rien ne lui revienne. Mais bon, lui en tout cas a expliqué que tous les bénéfices de ses ventes iront pour une association en aide aux migrants et qu'il ne toucherait donc pas un centime. C'est donc un acte politique qu'il veut faire. Et d'ailleurs, j'en suis sûre, Sérène, Adav et Marc-André, vous suivez comme moi l'actualité insulaire. Et il y a en effet une vraie tradition du tag en Corse, majoritairement, pour exprimer un avis politique. Alors évidemment, on pense au FLNC qui a utilisé cette méthode depuis sa création et puis petit à petit, ça s'est calmé. Les tags artistiques, eux, sont toujours présents sur l'île de ci, de là, mais les inscriptions politiques, elles, s'étaient rarifiées. Jusqu'à ces jours-ci, et ça fait partie d'ailleurs de la une du Corse Matin d'aujourd'hui, tag graffiti, ce que les murs ont à nous dire, car en effet, les tags reviennent en force sur les murs de l'île, notamment en rapport au collectif anti-mafia qui voit le jour et qui demande une liberté de parole par rapport aux actes mafieux. Pour certains, c'est un signe inquiétant car cela traduit un repli de la liberté de parole puisque ces tags sont faits évidemment de façon anonyme. Je vous le rappelle, c'est clandestin. Vous risquez une amende et puis surtout, vous risquez des représailles concernant la mafia. Pour résumer, que ce soit l'homme de Cro-Magnon avec son coquillage, Victor Hugo et son âme rebelle assumée, nos petits messages un petit peu débiles écrits sur les tables du collège, les artistes ou la population corse, nul doute que le graphe est un moyen de communication qui ne laisse pas indifférent.
Merci voilà Cécilia Cantelli.
Merci à vous.
Merci. Sérène, vous qui êtes une spécialiste de la communication, de la rhétorique, est-ce qu'il y a toujours eu cette tradition du tag en Corse? Ça remonte peut-être aux années 60-70, dès qu'il y a eu une revendication peut-être politique en Corse?
Alors, je ne suis pas toujours spécialiste du tag. Non, je pense que ça doit remonter plutôt aux années 70, mais encore une fois, vraiment, je n'ai pas du tout étudié cette question-là. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est la dimension contestataire.
A priori, c'est vraiment avec cette histoire de Riaquish, évidemment, qu'on connaisse tous, et les fondements du FLNC, que les premiers tags.
C'est une manière d'exprimer aussi un courant politique était minoritaire au niveau. Je pense que ça s'est beaucoup joué à ce niveau-là.
C'est
quand on manque de tribune, on utilise un mur, quoi. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que la série de pochoirs qui circule en ce moment je trouve ça assez émouvant. Voilà.
Et c'est reflet, encore une fois, de ce qui peut se passer dans notre société,
mais bien sûr,
qu'on a du mal à dénoncer.
C'est un reflet de l'actualité, mais ce qui s'est passé sur les tags politiques encore, j'ai l'impression, c'est qu'à partir du moment où les nationalistes ont été élus, il n'y avait plus forcément besoin d'écrire sur les murs.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que quand on pense au tag en Corse, forcément, comme le dit Marc-André, on pense à ces revendications nationalistes. Depuis quelques années, je pense à Ajaccio, du côté de la gare, où on voit des tags artistiques avec Frida Kahlo, Dali. Voilà, on voit de plus en plus de tags dits artistiques. Alors peut-être que les autres tags politiques l'étaient aussi, je ne sais pas, mais ça fleurit pas comme sur les murs des autres capitales européennes, malgré tout. Vous trouvez pas qu'on a moins de tags artistiques chez nous?
Ils sont beaucoup plus rares, effectivement. Enfin,
c'est une culture qui est moins urbaine, peut-être.
Oui,
c'est vraiment une émanation de la culture urbaine, le tag artistique. Et le street art, comme le street, il y a moins de street en Corse, donc il y a moins de street art.
Tu es orchestral, street.
Tu es chrétien, s'il est noir.
Caroudi art. Il faut qu'on lance un truc avec Marc-André et Cécilia. Sérène Atalamoni, donc des études que vous poursuivez aujourd'hui,
oui,
qui touchent pratiquement à leur fin.
Oui, espérons.
Oui, que vous réussissiez ce passage de thèse. Donc vous vous destinez à l'enseignement.
Et la recherche.
Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de transmettre?
C'est très intéressant de pouvoir, quand on y arrive, apporter quelque chose aux étudiants qu'on a devant nous et de voir surtout qu'ils ressortent au-delà des connaissances, mais en réfléchissant et en ayant l'esprit ouvert sur quelque chose. Au-delà, évidemment, des connaissances qu'on leur enseigne et qui leur permettent ensuite de trouver un métier. Cette dimension d'ouverture qu'a l'université est vraiment passionnante et très enrichissante.
Alors, je vous propose d'écouter votre prochain choix musical. Alors, à nouveau une chanson italienne, Una Storia Importante et Eros Ramazzotti. Ça fait partie des chansons que vous écoutez un petit peu en boucle.
Oui, c'est bon, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, l'Italie, donc... Voilà, la musique italienne également.
Est-ce que cette chanson a une histoire comme Paolo Conte?
Non, pas spécialement.
Étiez-vous au concert de l'Arinée l'an passé?
Non, je n'étais pas au concert de l'Arinée. Non.
Il y a un grand show d'Eros Ramazzotti.
Tout à fait.
On l'écoute et on se retrouve dans un instant. Toc Toc en compagnie de Sérène Atalamoni ce soir et les chroniqueurs et chroniqueuses Cécilia Cantelli et Marc-André à Castellagne.
fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.
Et c'était Eros Ramazzotti. Vous écoutez RCFM Toc Toc. Notre invité, Sérène Talamone. Je ne suis pas seule. À mes côtés, Cécilia Cantelli et Marc-Andrea Castellagne. Et nous allons parler et évoquer à présent les médias avec notre invité qui est Sérène Talamone. Cécilia, Marc-Andrea, vous intervenez quand vous le souhaitez. D'ailleurs, on attend également votre point de vue à propos des médias. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les médias, Sérène Talamone, que ce soit la radio ou la télévision?
En fait, un petit peu la même chose que dans la recherche, c'est-à-dire l'ouverture que ça apporte, les rencontres, le fait de rencontrer toujours des gens différents et de découvrir un univers à chaque fois. Je trouve ça merveilleux d'interviewer des gens et d'être immergé à chaque fois dans leur univers.
Et vous verrez bien poursuivre cette carrière d'universitaire en collaborant ainsi à divers médias.
Oui, j'aimerais bien, oui, tout à fait. Hein.
On va poser la même question à nos chroniqueurs et chroniqueuses. Marc-André et Cécilia, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans les médias et notamment la radio? Qu'est-ce qui vous plaît même?
Moi, la radio, c'est vrai que... Enfin, c'est peut-être un peu cucu, pardon, de dire ça, mais c'est aussi une espèce de Madeleine de Proust. Alors peut-être que les nouvelles générations fonctionnent plus trop comme ça, non pas que je sois très âgée, mais c'est vrai qu'adolescente et même enfant, moi j'ai toujours eu la radio allumée, bon déjà dans la voiture avec les parents évidemment, mais moi le soir dès que je rentrais, j'allumais la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ce qui est proposé aujourd'hui.
Cécilia qui a grandi en 1920.
Évidemment, de télévision. Non, mais c'est vrai que n'empêche, j'ai grandi dans les années 80.
Le Pigne
ou le Pigne, on existe. n'existait pas.
Mais
il n'y
avait pas. Non, mais je veux dire, c'est vrai
qu'on s'y trône, il est bon.
Les jeunes, ils ont un tas de choses que nous, on n'avait pas
bien
forcément.
Bien sûr. Tous ces écrans, voilà, ces tablettes.
C'était pas le réflexe. Ou alors, oui, j'allais, j'aurais des Beverly Hills. Voilà. Mais je veux dire, il n'y a pas un truc que je suivais ou qui durait. Parce que là, quand même, la télé, je veux dire, il n'y a jamais de pause. On a toujours un truc à voir pour les jeunes. Moi, mon rendez-vous, c'était plutôt la radio, les libres antennes et les trucs comme ça. Et c'est pour moi un moyen de communication extraordinaire. Je me souviens que les jeunes, on appelait à l'époque, c'était Difool, je me souviens sur le fun radio, à l'époque, c'est bon. Mais je veux dire, voilà, on appelait, on pouvait dire nos problèmes. Enfin, c'était, pour moi, c'était incroyable. C'était avant Internet. Il n'y avait pas ces histoires de forums, de réseaux sociaux, tout ça.
Donc, tout à fait. Il y avait cette proximité, voilà, avec la radio, qu'il n'y avait pas forcément avec la télévision, par exemple.
Et puis, autre chose qui, moi, m'a marqué avec la radio, c'est qu'on. Enfin, moi, personnellement, j'écoutais la radio et je la regardais alors qu'il n'y avait rien. Mais
Parlez-nous, je ne comprends pas. Allez au fond de votre pensée, non, c'est intéressant.
C'est-à-dire que je n'écoutais pas la radio en faisant autre chose. J'écoutais la radio et je fixais sur le...
Avec votre poste, d'accord.
Avec attention.
Avec attention, genre vraiment, je suivais tout. Et du coup, ça m'a toujours... De qui?
Quoi? Allô?
Comment?
Allô, tu
parles.
C'est notre technicien Simon qui vous fait des blagues.
J'ai vu le verre bouger sur la table seule. Oh, ma vise.
C'est Halloween bientôt.
Ouais.
Donc, et voilà. Vous, mon cher, merci Cécilia pour ce partage d'expérience. Marc-André à Castellani, les médias. C'est quelque chose qui vous est rêvé lorsque vous étiez ado, enfant, ou non? Ça s'est présenté un petit peu comme ça.
Bah, ça fait un peu partie des meubles. Mais ce que je trouve dans ce qu'elle dit, Sérène, c'est, pour moi, il y a un lien quand même entre cette étude de la sociologie et la radio. C'est assez évident. C'est ce qu'elle a de fantastique, la radio. Encore RCFM, c'est que c'est vraiment au centre de la société. C'est quelque chose qui fait partie des meubles, d'un cadre qui est quand même assez fascinant à observer. Et que ce soit donc la sociologie et RCFM, c'est étroitement lié pour moi. C'est très connecté. C'est quelque chose qui est au centre de la vie des Corses depuis longtemps. Et c'est une petite société, mais une société qui a une actualité qui est également extrêmement riche, extrêmement dense, avec des codes qui sont très particuliers. Et d'une part, y participer et d'autre part les observer, je pense que c'est deux démarches qui sont assez fascinantes. Voilà.
Est-ce que vous souhaitez rebondir, Sérène?
Oui, c'est vrai. Je suis totalement d'accord sur cet aspect-là de la radio.
Marc-André qui est passé à côté d'une vocation de sociologue. J'espère que tout le monde s'en rend compte ce soir.
Il est toujours à temps.
Son encoué, hey, tu vois.
Non, c'est vrai que la radio, il y a beaucoup effectivement cette dimension-là de proximité aussi, la proximité que ça permet, avec aussi la facilité qu'on a à être en contact avec n'importe qui, en Corse ou à l'autre bout du monde, et du coup, effectivement, une étude sociologique de la radio, ça serait aussi passionnant. Hein.
Même les codes d'antenne d'RCFM sont quand même assez particuliers. Une émission comme Didao, je travaille en Tédia, Manon, on discute avec eux complètement librement comme ça, ça chante, ça. Il y a une liberté, une connexion avec l'auditeur qui est quand même assez particulière.
C'est vrai. Voilà.
Oui, on n'imagine pas sur France Inter, ça, par exemple.
Difficilement, ouais.
Voilà, des gens qui appellent, qui chantent en direct. On voit d'ailleurs que c'est le matin quand De Morant prend les auditeurs pour quelques questions. Voilà, c'est assez bref, c'est succinct. Voilà, on ne s'égare pas, on pose la question et basta.
C'est la proximité qui fait ça. Hein. C'est... Mm-hmm.
Elle reflète vraiment notre société, en fait.
Conditionne énormément de choses, la proximité en Corse, notamment ça, quoi. C'est-à-dire, on peut pas traiter les gens parce que vous allez les croiser dans la rue, ils vont discuter. Je trouverai des loups, mis à loup des raids, hein, en direct. C'est quand même assez, c'est particulier, quoi. Voilà. Pour revenir à De Morant, ça m'étonnerait que ça lui arrive. Hein. Vous ferez la bise à papa, hein. C'est compliqué.
Mais vous êtes bien plus connu que De Morant, mon cher Marc-André. Sérène, la différence, est-ce que vous notez une différence entre la radio et la télé, si ce n'est bien entendu l'image?
La radio, c'est beaucoup plus facile, dans le sens où il y a beaucoup plus de liberté, en fait, on peut simplement partir avec un enregistreur et aller faire...
On est plus libre, on peut faire ses reportages seul.
Voilà, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. La télé, c'est plus codifié, à mon avis, mais les deux sont intéressants et complémentaires, je pense. L'image aussi, ça apporte une vision différente des choses. C'est vrai que quand il n'y a que la voix, on est dans une autre dimension aussi quand on voit pas, quand on écoute simplement la radio. Je pense que réussir à intéresser les auditeurs, c'est aussi difficile, c'est une difficulté aussi, puisqu'il n'y a que la voix, il n'y a pas l'image.
D'ailleurs, quel est votre rapport à l'image? De vous voir, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas? On s'y fait?
Oui, bon, ça fait pas très longtemps, mais bon, je... Il n'y a pas vraiment de rapport. Enfin, ni ça me plaît, ni ça me déplaît, en fait. Hein, je dois dire, je regarde pas systématiquement.
Un narcissisme modéré, alors.
Absolument.
Alors, parce que, avec cette excellente transition sur le narcissisme, alors, on le disait en début d'émission, votre mère est psychologue. Mm-hmm. Et vous vous intéressez, notamment, moi je trouve assez souvent, et c'est plutôt chouette à la télévision, souvent, il y a un prisme un petit peu psychologique. Dans vos chroniques, c'est quelque chose qui vous intéresse, la psycho?
Oui, tout à fait. En fait, je trouve que, enfin, que ce soit au niveau individuel ou collectif, comprendre ce qui motive les gens ou ce qui motive les sociétés, en fait, c'est fondamental. Moi, ça m'intéresse énormément. Et en fait, effectivement, que ce soit dans les médias ou à l'université, il y a une dimension psychologique d'aller chercher quels sont les ressorts en dessous des phénomènes et ce qui fait vivre les gens, hein, ce qui les pousse dans la vie.
Parce que finalement, la sociologie, c'est plutôt à grande échelle. La psychologie, voilà, c'est regarder l'individu ou une société avec une loupe et essayer de l'analyser.
Oui, il y a toujours cette dimension-là, en fait, d'essayer de comprendre les choses, effectivement.
Alors, mon cher Marc-André, oui. Est-ce que vous nous avez préparé un petit blind test?
Ah, vous voulez qu'on joue? Mais bien évidemment, comme toujours. Mais tout le monde du yoga. Hein,
bien sûr.
Personne ne doit être de côté. Vous connaissez les règles du jeu, inutile de les rappeler.
Rappelez-les quand même.
Alors, on tape une intro à la guitare de quelque chose et vous devez deviner quelle chanson c'est, tout simplement.
D'accord. Alors, on donne le nom de l'interprète ou le titre de la chanson?
Ce que vous pouvez.
Le but est de gagner. Hein, le but, alors qu'on soit bien d'accord sur les règles dès le départ.
Okay. Voilà.
Dave joue pour gagner.
Alors, on y va. Allez, par rapport à ce qui s'est dit...
Ah, on me dit un chanteur italien. Non, c'est pas un italien.
Bon.
Ah, l'angocha.
Ah ouais. Ouais, je crois qu'on peut dire je passe.
Sparring partner, Paolo Conte.
Oui,
je dois dire que notre technicien Théo le savait et je lui ai pas fait confiance. C'est ma faute.
Nous aurions pu avoir un point.
Bon alors donc un zéro pour Cécilia, zéro pour Sérène,
zéro pour Dalia également.
Alors on va faire un peu plus simple. Allez, allons-y.
Un point pour Cécilia, bravo.
C'est très difficile avec les intros uniquement, hein.
Ouais, c'est vrai.
Marc-André pourrait chanter un petit peu, non?
Oui, c'est vrai.
Et mais unique, hein. Allez, un petit clin d'œil, allez.
Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu Recollection.
Alors, quoi?
Ah! Alors, moi, je suis nulle.
Oui, non, mais moi aussi, mais je pense que nous, on devrait arrêter de jouer, Dave. Qu'en pensez-vous?
Come together, right?
Très bien. Merci, quand même. Je me suis sentie très seule.
Ben oui.
Alors, petit clin d'œil, parce que.
On est désolés.
On fêtait les 50 ans d'Abbey Road, des Beatles. Ah. Et c'était un petit clin d'œil, donc, avec ce titre d'Abbey Road,
même des Beatles. Même pas les Beatles, on a trop.
Comme tout guesser des Beatles, je ne sais plus quoi faire pour vous.
Mais alors, j'avais dit, avant l'émission, j'ai dit à Dave, peut-être qu'on va même pas reconnaître les Beatles.
Finalement.
Voilà.
C'est parce qu'ils ne chantent pas, c'est dur. C'est assez
prémonitoire.
C'est chaussé.
Je cherche des excuses.
Alors, je vais jouer l'intro avec la mélodie en même temps. Allez, on va voir. Oh, c'est moi là.
Si vous jouez mal aussi, après on peut pas trouver. Hein.
France Gall.
Oui, poupée de cire, poupée de son.
Bravo,
ouais.
Cécilia.
C'est
alors,
ça.
Ouais, oui, c'est
ça,
tout
ça
à fait
pas
ça.
Comme ça.
Oui, ah. C'est Poupée de ciel, Poupée de son, très bien. Et un morceau qui avait été écrit pour, par Serge Gainsbourg. Voilà. Voilà, et qui avait fait
Vous pouvez nous rejouer quelques notes, c'était vraiment magnifique. Hein.
Très beau.
Et Serge a chanté.
Oui, Davia, je vous attends.
Une poupée de son.
C'était, c'était un superbe ligne mélodique. Bon, Gainsbourg en a fait quelques-unes. Alors, on va essayer d'en faire une autre petite dernière pour la route.
On aurait dû peut-être s'arrêter sur une victoire.
Non, on est à zéro. C'est Célia à 2 points, on est à 0 là. Hein.
Oui, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Ouais.
Si on faisait le match, Ajaccio. En plus, elle a 2 contre 1.
Oui, oui. En plus, elle est toute seule.
Ah, ouais.
Alors, on n'a pas dit notre dernier mot. On a pas dit notre
dernière chance.
Donc, je donne une petite indication.
En plus, on a Mika en Bréal,
Au contraire, non, je lui tiens ma dialèse.
Voilà.
Et voilà.
Il compte pour 10, Mika.
C'est le coup de fil à un ami.
J'ai vu de la lumière, je suis rentré.
Là, ça fait 2 à 1, il en faut une dernière là, pour qu'on égalise. Hein.
Ouais, le chat de Mirivelet.
Alors, Mika, on vous retrouve à quelle heure? À
18h?
18h30, le temps passe si vite. On parle de quoi ce soir avec vous?
On va parler de foot avec Jean-Pierre Accoyi à 100% club.
Vous intéressez au foot, Sérène?
Très peu, je dois le dire.
Très peu.
Très peu.
Pas de. Voilà, vous n'allez pas au match le samedi ou le vendredi avec Marc-Henri en criant. Non.
Ça fait un petit moment que j'y vais plus, mais bon.
On vous écoute, Marc-Henri. Si vous avez une idée encore d'une petite mélodie.
Allez, on verra. On va tester les capacités de Michael. De Cadero, tu mets. Conosco gli orni, mais c'est pas exactement comme ça. Ou ben, Zouilo, Rediamo di Alessi.
Bien sûr.
Merci, Marc-Henri.
Bravo.
Castellani, bon, la victoire. Cécilia Cantelli, bravo, Cécilia.
Merci. Nous vous félicitons.
Ça fait plusieurs fois que je remarque qu'elle met des billes qui ne sont pas faciles à mettre.
Elle sort plus que nous, c'est pour ça.
Tous les soirs. Cécilia écoute la radio tout le temps, comme elle nous l'a dit.
Je la regarde et je ne suis pas folle.
Elle regarde son poste.
Oui.
Ma chère Sérène, vous écoutez la radio dès le matin?
Oui.
Quel est votre rapport à l'actualité?
Mon rapport à l'actualité, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, est-ce que toute la journée, eh ben voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos en continu, alors, vous lisez tous les journaux, vous êtes voilà.
Je lis le journal le matin, et après je suis plutôt sur les réseaux sociaux ou à la radio, mais très peu les chaînes d'actualité parce que ça ne me plaît vraiment pas en fait, les chaînes d'information en continu, j'entends, hein, où on entend en boucle 50 fois la même information, donc plutôt, enfin j'essaie d'aller chercher un peu ailleurs.
Quels sont les thèmes qui vous intéressent dans l'actu? La politique?
Oui, la politique, corse et internationale, hein, mais de manière générale, je pense que c'est important l'actu, de savoir un peu ce qui se passe, hein, quelles que soient les thématiques en fait. Hein.
Elle nourrit votre travail de recherche, j'imagine?
Oui, aussi, bien sûr.
Bon, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. On va écouter un autre titre, peut-être Diana Saligetti, mon cher Simon Guérini. Alors, Insem et Diana Saligetti, parlez-nous de cet artiste que vous appréciez.
Oui, je l'apprécie beaucoup et je voulais faire un petit clin d'œil aussi à la chanson féminine en Corse, hein, voilà, parce que je trouve que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se mettent à chanter en Corse, qui était plus dur avant.
Alors, on va demander peut-être à Marc-Henri, hein, qui doit s'y connaître en
Mais clairement, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Sérène. Peut-être qu'une des grandes failles du réacquiste, c'est d'avoir largement répandu l'image d'un barbu austère. Et donc, malgré, évidemment, il y a eu des femmes, hein, pendant, déjà, beaucoup de chants traditionnels étaient chantés par des femmes, le réacquiste, où on a eu les Edouye Badriz et d'autres chanteuses, mais Particulièrement, je trouve qu'il y a une nouvelle génération dont fait partie Dour, il y a Diana Salige, Carlo Tarini, bon évidemment j'en passe parce que je ne peux pas toutes les donner d'un coup, mais Léanton et la duetta Doria, qui donc voilà, qui porte quand même un peu d'un côté un peu glamour, un peu féminin, et oui, ça fait beaucoup de bien, oui.
Mais c'est assez récent, hein, cette vague des Diana Salige, Doria Housset, comme vous disiez. Dans les années 90, il n'y avait qui que Padri Diagatadze, Padri Diapol.
Il y en avait quelques-unes quand même.
Oui, il y a eu Marise Nicolas. Je vais utiliser des termes, allez, je vais oser. Ce que je trouve intéressant dans ces artistes-là, c'est un côté un petit peu plus sexy, je dirais, avec un chant qui a un peu plus porté sur des thématiques comme ça, alors que on restait dans un chant très revendicatif, quoi. C'était dans les années 90, et je trouve que petit à petit, en suivant le chemin de ces artistes, on a eu des chanteuses qui renvoient également ce côté très féminin, très glamour, et ça apporte vraiment beaucoup à la chanson corse. Je pense que les femmes ont un rôle immense à jouer dans le sauvetage de la langue corse, parce qu'après tout, c'est la mère qui transmet, quoi. Ça, il faut pas l'oublier.
Est-ce que les hommes sont aussi plus glamour ou pas? Et un peu plus sexy aujourd'hui quand ils chantent, où ils restent toujours des barbus austères.
Non, je pense que beaucoup de gens, c'est les époques aussi, hein, il faut comprendre, les années 70 ont été des époques où il y a eu cette espèce de mythe du guerrier chanteur, je dirais, du moine, et ça, petit à petit, on en est sorti avec des groupes qui ont compris que les gens venaient aussi pour faire la fête, pour apprendre quelque chose, peut-être pour entendre un message, mais également pour se passer un moment agréable, un moment, et ce côté festif du chant corse, c'est beaucoup avancé, hein, et ça, je pense que ça va lui permettre de voyager de plus en plus aussi, hein. Voilà.
Moi, je pense qu'il faut quand même saluer les femmes qui ont été vraiment à l'origine, par exemple les Doué Patrides, et qui, pour qui ça a dû être beaucoup, assez difficile aussi à l'époque, oui, dans un monde d'hommes, et qui aujourd'hui sont encore très populaires, et qui se renouvellent tout le temps, et je trouve que c'est vraiment bien qu'elles ont ouvert la voie, en fait.
Elles sont encore là, hein, oui, bien sûr. Elles ont été avant-gardistes et elles sont encore sur le terrain aujourd'hui. Et oui, évidemment, on ne peut que les saluer. Mais bon, voilà, je trouve que le fait de quitter un petit peu son austérité et d'aller sur quelque chose de plus glamour, dirons-nous,
on pourrait faire des gars.
Merci Marc-André Castellani.
On l'entend en direct.
On écoute, bien sûr qu'on l'entend. On le écoute ghost. Tout de suite Diana Salige avec ce titre que nous aimons beaucoup, Insame. c'était Diane Saliged. Je vais vous remercier, Serenata Lamogne, d'avoir été avec nous.
Eh bien, merci à vous, merci à vous tous. Hein.
Et on va remercier également nos brillants chroniqueurs et chroniqueuses, Cécilia Cantelli et Marc-Andrea Castellani. Merci à vous.
Et je t'adoum piégé. Merci.
Voilà, on se retrouve dans la semaine, je pense, demain.
Si,
ou un peu plus tard dans la semaine, je ne sais
mercredi
plus, j'ai oublié le planning.
Moi,
mercredi pour vous. Et Marc-Andrea, quand vous le souhaitez.
On se
bien
demain.
Entendu. Merci, Serena. Et tout de suite, on retrouve Jean-Pierre Acquaviva. Bonsoir,
peut-être,
Jean-Pierre.
Peut-être.
Bonsoir vous
à toutes et deux. Si, je vais être là avec Mickaël et Andréane. On va parler football ce soir, comme tous les lundis soirs.
Super. Bon, mais on vous souhaite une bonne soirée, en tout cas.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Des factures, des justificatifs, des photocopies? Vous aussi, vous en avez marre de la paperasse? Avec l'appli EDF Dom Écorce, téléchargez gratuitement, à tout instant, un justificatif de domicile.
Vous pouvez aussi payer vos factures quand vous voulez et où vous voulez avec l'appli EDF Dom Écorce.
EDF Dom Écorce. Simplifiez-vous la vie, passez à l'appli.
L'énergie, il nous sta bene. Tenimola conto.
Da Pilaganale a Regno, da Lecce a Ascu, RCFM, insieme si muove.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Les éclaircies seront belles la nuit prochaine avec un petit vent de sud-ouest plutôt modéré, notamment sur la partie occidentale de notre pays. Les températures 21 à 23 degrés, c'est plutôt agréable, 18 degrés sur le relief. Pour demain, le voile nuageux va s'épaissir au fil des heures et en fin de journée, le ciel sera couvert mais le temps restera sec. Pour la nuit prochaine, la nuit de mardi à mercredi, le temps sera globalement bien nuageux. Des averses seront possibles en seconde partie de nuit, notamment dans le Cap. Les températures seront agréables.